Bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger le jour 14 de physique sur l'exercice un sport traditionnel, le lancer de gerbes de paille. Donc la première question et la première partie plutôt est une partie de mécanique sur l'étude du lancer, avec une première question d'utiliser la deuxième loi de Newton pour déterminer les coordonnées AX et AY de T du vecteur accélération de M. Pour cela donc on rappelle le système qui est ici, donc la botte de paille et le référentiel qui est un référentiel donc terrestre supposé galiléen pour appliquer la deuxième loi de Newton. On nous dit dans les données que l'action de l'air est négligée, ce qui signifie que le système n'est soumis qu'à son poids et donc on peut écrire la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieur est égal au produit de la masse du système fois le vecteur accélération. Il n'y a qu'une seule force, donc P est égal à m fois A, ce qui nous donne m fois g vecteur égale m fois A vecteur, et donc finalement A vecteur égale g vecteur, que l'on va projeter sur les axes proposés OX et OY du repère choisi. Donc il y a le vecteur g étant seulement vertical, il n'y a pas d'accélération selon l'axe OX, donc AX est égal à 0. L'axe OY est vertical vers le haut, et le vecteur G étant vers le bas, cela signifie que AY est égal à moins G. Question 1.2. Montrer que les équations horaires du mouvement de M s'expriment sous la forme. Donc on nous dit x de t égale v0 fois t fois cos alpha, y de t égale moins 1 demi de g fois t au carré plus v0 fois t sin alpha plus h. La méthodologie est souvent la même pour ce type d'exercice-là. On nous demande donc x de t, y de t. Il va falloir partir de la question A.1 pour déjà, à partir de l'accélération, en déduire le vecteur vitesse et à partir du vecteur vitesse, en déduire le vecteur position et ses coordonnées. Donc on commence par rappeler que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc sur les deux axes, on va avoir ax égale dvx sur dt et ay égale dvy sur dt. Ainsi, en primitive, on obtient donc que comme ax est égal à 0, vx est une constante qu'on peut noter constante 1. Et comme ay est égal à moins g, on prend une primitive, donc ça va nous donner moins g fois t plus une constante qu'on va noter constante 2 par exemple. La méthodologie est toujours la même dans ce cas de figure-là. Pour déterminer les constantes, on utilise les conditions initiales. Le vecteur V0 donc est présenté sur le schéma, il fait un angle alpha avec l'horizontale. Et donc on va voir en utilisant la trigonométrie habituelle que V0x est égal à V0 cos alpha et V0y est égal à V0 sin alpha. Qu'est-ce que c'est aussi que V0x? C'est V de x à t égale 0. Donc V de x à t égale 0, d'après ce qu'on a vu au-dessus, c'est constante 1, mais c'est aussi V0 cos alpha. Donc tout de suite, on trouve que la constante 1 est V0 cos alpha. Et qu'est-ce que c'est aussi que V0y à part V0 sin alpha? C'est VY à t égale 0. On remplace donc t par 0, ça fait moins g fois 0 plus constante 2. Et tout de suite, on trouve que la deuxième constante vaut V0 sin alpha. On a donc finalement que V a deux coordonnées, le vecteur vitesse V, V de x de t qui vaut V0 cos alpha et VY de t qui vaut moins gt plus V0 sin alpha. On a aussi qu'à chaque instant, V, c'est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Donc VX c'est DX sur DT, VY c'est DY sur DT. On primitive le vecteur vitesse pour avoir le vecteur position. Donc selon OX, on va avoir donc X de T qui vaut V0 cos alpha fois T plus une constante qu'on va noter constante 3. Comme V de Y égale moins GT plus V0 sin alpha en primitivant pour avoir donc Y de T. Donc on se souvient que la primitive de T c'est t au carré sur 2, que celle d'une constante, c'est la constante fois t, à une constante près, et donc finalement, il vient que y de t égale moins 1 demi fois g fois t carré, plus v0 fois sin alpha fois t, plus une constante qu'on va noter, constante 4. On va avoir constante 3 et constante 4 en utilisant encore une fois les conditions initiales. On sait que le point M AT égale 0, X AT égale 0 vaut 0, Y AT égale 0 vaut H. Il vient donc en remplaçant dans X de T que 0 plus constante 3 égale 0, donc tout de suite la constante 3 vaut 0, et en remplaçant Y AT égale 0, il vient que constante 4 est égale à H. On a donc finalement retrouvé X de T égale V0 fois cos alpha fois T, et y de t égale moins 1 demi fois g fois t carré plus v0 sin alpha fois t plus h. Question 1.3, très classique aussi, quand on a les équations horaires du mouvement, on nous demande d'en déduire l'équation de la trajectoire y de x. Pour ça, la méthode est toujours la même. On prend des deux expressions celle qui est la plus simple, c'est-à-dire ici x de t. On va exprimer t en fonction de x, ce qui nous donne t égale x sur v0 cos alpha, qu'on va injecter dans y de t, ce qui va nous donner donc moins 1 demi fois g sur x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 fois sin alpha fois x sur v0 cos alpha plus h. On peut un petit peu simplifier, puisque on peut distribuer dans le carré, donc ça va nous donner moins 1 demi fois g fois x carré sur v0 carré cos carré alpha. Sinus alpha sur cos sinus alpha, donc c'est une fonction trigonométrique qui s'appelle la tangente, donc tangente alpha x plus h. Question A4. À l'aide d'une analyse quantitative, indiquer si la gerbe de paille franchira ou pas la barre horizontale. Donc, quand on parle d'analyse quantitative, ça veut dire qu'il va falloir faire un calcul. Donc, quand on regarde le problème, on sait que la gerbe de paille va franchir la barre qui se situe à une distance donc de 2 mètres si son altitude va être supérieure donc à l'altitude de la barre qui est de 4 mètres 50. Pour cela, donc, on va calculer l'altitude, le y, à 2 mètres. S'il est supérieur à 4,50 m, la gerbe de paille passe. Si c'est inférieur à 4,50 m, elle ne passe pas. Donc on remplace y, donc dans y de x, x par 2 mètres. Donc ce qui va nous donner moins 1 demi fois 9,8 fois 2 au carré sur 9 au carré fois cos 80 au carré, plus tangente de 80 fois 2, plus 2,80. On n'oublie pas de régler sa calculatrice en degrés. N'oublie pas les carrés également, et ça nous donne une altitude y qui est de 6,1 mètres, qui est largement au-dessus de 4,5 mètres. On peut donc en conclure que la gerbe passe au-dessus de la barre horizontale. Question A.5. Calculer la valeur de l'énergie cinétique et celle de l'énergie potentielle de pesanteur du système en M0. Pour calculer l'énergie cinétique, on utilise une expression à connaître par cœur qui est 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. On fait attention aux unités, la masse doit être en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, ce qui était le cas ici, ce qui nous donne 1 demi fois 7,257 fois 9 au carré, ce qui nous donne environ, en gardant deux chiffres significatifs, 2,9 fois 10 puissance de joules. L'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie liée, comme son nom l'indique, à la pesanteur, mais aussi à l'altitude. Plus l'altitude est importante, plus l'énergie potentielle de pesanteur est aussi importante. On peut la calculer par m fois g fois y, ou m fois g fois h ici. Donc ce qui nous donne 7,257 fois 9,8 fois 2,80, en gardant deux chiffres significatifs, ce qui nous donne environ 2 fois 10 puissance de joules. Question A6, où on a trois propositions. D'abord, en négligeant l'action de l'air, il va falloir dire si les propositions 1, 2 et 3 sont justes ou fausses. Alors, la première proposition, c'est l'énergie mécanique est maximale en M0. Et on sait que lors d'une chute, comme ici, si on néglige l'action de l'air en une chute libre, l'énergie mécanique, elle se conserve. Ça veut dire qu'elle va être la même en M0, en M1 et en M2. Donc, elle est constante, donc elle n'est ni maximale ni minimale finalement. Proposition 2, l'énergie cinétique est nulle en M1. En M1, certes, donc la vitesse selon l'axe Y est nulle, mais il y a toujours une vitesse horizontale hein, selon l'axe X. Donc l'objet, donc la gerbe de paille, elle est toujours en mouvement. Donc la vitesse en M1, elle n'est pas nulle. Donc si la vitesse n'est pas nulle, l'énergie cinétique n'est pas nulle non plus. Enfin, proposition 3, l'énergie cinétique en M2 est inférieure à l'énergie cinétique en M0. Alors c'est faux aussi, pourquoi? Parce que on voit que M0 et M2 sont exactement la même altitude. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir la même énergie potentielle de pesanteur. Et on sait que dans le cas d'une chute libre, l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, reste constante. Ça veut dire donc que si EM est constant et que EPP est constant en M0 et en M2, l'énergie cinétique se doit aussi d'être la même en M0 et en M2. Donc c'est faux. Dans la question d'après, on dit que l'action de l'air ne peut pas être négligée. Donc on va reprendre les mêmes propositions. Donc l'énergie mécanique est maximale en M0. Du coup, c'est vrai puisque les forces de frottement subies par le système sont dites des forces non conservatives. Alors l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer au cours du mouvement. Elle est maximale au départ en M0, puis elle va diminuer en M1, puis en M2. Donc à cause de ces forces de frottement. Proposition 2. L'énergie cinétique est nulle en M1. Bon, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, l'énergie cinétique, comme la vitesse en M1 n'est pas nulle, l'énergie cinétique n'est pas nulle non plus, donc c'est faux. Et enfin, la proposition 3, l'énergie cinétique en M2 est inférieure à l'énergie cinétique en M0. Donc, comme on vient de le dire, l'énergie mécanique en M2, donc l'énergie totale à cause des forces de frottement, elle sera plus faible qu'en M0. Or, l'énergie potentielle en M0 et en M2 est la même, puisque M0 et M2 sont à la même altitude. Ce qui signifie que c'est l'énergie cinétique en M2 qui va être inférieure à l'énergie cinétique en M0. Donc la proposition est vraie. Passons maintenant à la partie qui nous permet de réviser le condensateur. Alors question B1. Établir la relation entre la tension E au bord de la tension idéale, la tension UC, et puis la tension ER au bord du conducteur, au borne, pardon, du conducteur ohmique. Donc on sait que pour établir une relation entre les tensions, on va utiliser une loi importante en électricité qui s'appelle la loi des mailles. Donc d'après la loi des mailles, on peut écrire que E moins UR moins UC en choisissant un sens de rotation est égal donc à 0, ce qui nous donne que E est égal à UR plus UC. Question B2, question classique également à savoir faire assez rapidement, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T lors de la charge est de la forme E égale R fois C fois D, la dérivée de UC par rapport au temps, plus UC de T. Pour cela, on va utiliser donc la loi des mailles, donc ça c'est d'après la question 1, on sait que E égale UR plus UC, puis on va utiliser la loi d'Ohm pour exprimer UR en fonction de I, ce qui va nous donner RI plus UC, qui est égal à E. Or, on sait que I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps, dQ sur dT, et que Q, c'est C fois UC, la capacité fois la tension au bord du condensateur. Et comme C est constante, on sait que I va être égal à C fois la dérivée de UC par rapport au temps. On va prendre cette valeur de I qu'on va réinjecter dans la loi d'Ohm, ce qui va nous donner R fois C fois dUC sur dT plus UC de T, qui est égal finalement à E. Donc ce qu'il fallait démontrer. Question B3. En exploitant la courbe indiquée par un raisonnement argumenté, la fonction qui modélise la charge du condensateur. Donc on a ce type de question, on peut s'intéresser donc à t égale 0, et quand t est suffisamment grand, c'est-à-dire mathématiquement on dit quand t va tendre vers l'infini. Alors déjà, parmi les fonctions 1, 2 et 3, si on remplace UC à t égale 0, la fonction 1 va nous donner donc UC. Donc si on remplace t par 0, donc E fois 1 moins E de 0 sur RC, c'est-à-dire 1, et donc on va avoir UC à t égale 0 vaut 0. La fonction 2, en remplaçant t par 0, on trouve UC de t égale E, et la fonction 3, de la même manière, UC à t égale 0 égale 0. Donc déjà, on peut éliminer la fonction 2 qui n'est pas cohérente puisque UC à t égale 0, d'après le graphique, le condensateur étant déchargé, sa tension à ses bornes est égale à 0. Il reste à comparer maintenant la fonction 1 et la fonction 3. On va faire tendre t donc vers plus l'infini. Donc si on fait ça, l'exponentielle pour la fonction 1 va tendre vers plus l'infini. Donc comme il y a un moins devant, UC de t va tendre vers moins l'infini, ce qui n'est pas cohérent ici, puisque on voit que UC de t doit tendre vers la valeur E quand t tend vers plus l'infini, et c'est-à-dire quand t est suffisamment grand. Faisons la même chose avec la fonction 3. Donc si t tend vers plus l'infini, moins t va tendre vers moins l'infini, et exponentielle de moins l'infini donc tend vers 0, ce qui veut dire que UC de t va valoir E, C'est bien ce qu'on voit sur le schéma. Au bout d'un temps suffisamment grand, la tension au bord du condensateur va être égale à la tension grand E. Donc c'est la fonction 3 qui convient. Question B4. Vérifier que la fonction retenue est solution de l'équation différentielle établie à la question B2. Donc on prend une des méthodes possibles, donc c'est de prendre la fonction là qu'on a choisie, UC de t qui est égal à E fois 1 moins E2 moins t sur RC, et de l'insérer, de l'injecter dans l'équation différentielle, dans la partie RC fois DUC sur DT plus UC, et si elle est solution, on devrait trouver que la somme de ces deux termes est égale à 0. Donc UC de t, c'est donc E fois 1 moins E de moins t sur RC. Si on distribue, ça nous donne E moins E fois exponentielle de moins t sur RC. La dérivée donc de la constante E est égale à 0, et la dérivée de E fois E moins t sur RC, ça va nous donner donc moins 1 sur RC fois E de E moins t sur RC avec le moins devant. Et quand on va multiplier par RC, le RC avec le moins 1 sur RC vont se simplifier. Il va donc rester donc E moins donc RC fois E sur RC fois E moins t sur RC plus E moins E fois E moins t sur RC qui vient du UC de t, ce qui nous donne donc une simplification. E fois E moins t sur RC moins E fois E moins t sur RC qui fait 0 plus E. Et c'est bien égal, donc la somme de ces deux termes, donc RC fois la dérivée de UC sur DT plus UC, ça donne bien E. Et on peut dire que la solution donc convient. Donc c'est un peu long, mais il faut prendre son temps. Bien dériver donc la fonction E moins E fois exponentielle de moins T sur RC. Bien rajouter la fonction UC en elle-même, E moins E fois E moins T sur RC. On a des simplifications qui vont arriver, ce qui nous donne au final E. Donc la tension aux bornes du générateur. Alors, question d'après. En exploitant la courbe et en explicitant le raisonnement, déterminez la valeur de la distance d séparant les deux armatures quand le microphone fonctionne mais qu'il ne capte pas de son. Pour ça, on nous a rappelé l'expression de la capacité du condensateur en fonction de la permittivité là de l'air, de la surface des armatures et de la distance qui sépare les deux armatures. Nous a donné aussi numériquement le epsilon fois s, c'est-à-dire le numérateur de cette expression. Alors, on veut déterminer la distance d. On voit d'après cette relation qu'elle dépend donc de c et comment de la capacité du condensateur. Et comment accéder à la capacité du condensateur? On connaît une relation à bien connaître qui est que le taux, la constante de temps ici, est égale à r fois c. La constante de temps, on va pouvoir la déterminer graphiquement en utilisant par exemple la méthode des 63%. Si on remplace dans la fonction qu'on a choisie, donc t par taux ou t par RC, on va trouver UC à t égale taux qui est égal à E fois 1 moins exponentielle de moins taux sur taux, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins 1 fois E, ce qui fait 0,63%. Donc UC à taux, c'est 0,63%. E, c'est-à-dire 63% de E, c'est-à-dire 63% de 48, on le calcule sur notre calculatrice, ça fait 30 volts. Puis on va chercher donc l'abscisse qui correspond au point d'ordonnée 30 volts et on va avoir accès au taux. Donc taux vaut à peu près 0,007 secondes ou 7 millisecondes. Maintenant, on sait que taux est égal à R fois C, c'est-à-dire que C égale à taux sur R, c'est-à-dire 0,007 sur la résistance du conducteur ohmique qui est égale à 100 fois 10 puissance 6 ohms, ce qui nous donne une capacité de 7 fois 10 moins 11 farad. Puis on utilise le fait que la capacité c'est epsilon fois S sur D, donc que D c'est epsilon fois S sur C, et donc epsilon fois S nous est donné dans l'énoncé 1,4 fois 10 moins 15 sur C qu'on vient de déterminer. 7 fois 10 moins 11, ce qui nous donne une distance de 2 fois 10 moins 5 mètres, c'est-à-dire à peu près 20 micromètres. C'est bien conforme avec le sujet, puisque le sujet nous indiquait que lorsque le microphone ne capte pas de son, la distance entre les deux armatures est de l'ordre de 15 à 25 micromètres. Enfin, justifié par un raisonnement détaillé, l'évolution de la capacité du condensateur lorsque la distance séparant les deux armatures diminue. D'après la relation qu'on a utilisée à la question précédente, C égale epsilon S sur D. Si epsilon fois S reste constant et qu'on diminue D qui est au dénominateur, ça veut dire que C va au contraire augmenter. Donc si D, pardon, la distance diminue, alors C augmente. Passons maintenant à la partie qui nous permet de réviser les ondes sonores. Première question classique, on nous redonne comment on calcule l'expression pour calculer le niveau d'intensité sonore grand L. Donc c'est 10 fois log de I sur I0. On nous donne la valeur de I qui vaut 3,2 fois 10 moins 3 watts par mètre carré. La valeur de I0 nous sera toujours redonnée, le seuil d'audibilité à environ 1 fois 10 moins 12 watts par mètre carré. On fait l'application numérique. Et ça nous donne donc L1 qui est égal à 10 fois log de 3,2 10 moins 3 sur 1 10 moins 12, ce qui fait environ 95 décibels. Question C2, commenter le résultat de la question C1 au regard de ses durées limites d'exposition journalière. Donc pour 95 décibels, on se place dans le tableau. La durée de limite d'exposition est de 15 minutes par jour. Donc il ne faudra pas dépasser 15 minutes par jour à la distance de 1 mètre, sinon on risque vraiment des traumatismes au niveau de l'oreille qui sont irréversibles, notamment les cils qu'on a au niveau de l'oreille qui vont être impactés. Question donc C3, montrer que la puissance P de l'enceinte est égale à 4 fois 10 moins 2 watts. On nous rappelle également le lien entre l'intensité sonore et la puissance ici, qui est I égale à P sur 4 fois pi fois d au carré. Donc si on veut p, on inverse donc notre équation, ce qui nous donne p est égal à i fois 4 pi fois d au carré. Donc 4 pi fois, donc c'était à une distance de 1 mètre, donc 1 au carré, fois, donc on sait qu'à 1 mètre, l'intensité sonore vaut 3,2 fois 10 moins 3 watts par mètre carré. Donc ça nous donne finalement 4 fois 10 moins 2 watts, ce qu'il fallait vérifier. Question C4, expliquer le choix des organisateurs de fixer à 2 fois 10 moins 4 watts par mètre carré la valeur maximale de l'intensité sonore perçue par les spectateurs. Donc on va pour ça déterminer justement le niveau d'intensité sonore correspondant à cette intensité sonore I2. Donc ça va nous donner L2 égale 10 fois log de 2 10 moins 4 sur 1 10 moins 12. On trouve 83 décibels. On voit sur le tableau qu'à 86 décibels, on peut par jour écouter pendant 2 heures, ce qui signifie qu'à 83 décibels, on pourra écouter encore davantage, ce qui justifie le choix des organisateurs pour avoir aucun risque au niveau des oreilles des personnes présentes à cette manifestation. Enfin, question C5, indiquer par un raisonnement quantitatif si la distance de sécurité entre les barrières et l'enceinte est suffisante pour respecter la valeur maximale de 2 fois 10 moins 4 watts par mètre carré choisi par les organisateurs. Donc pour répondre à cette question, on va pouvoir calculer l'intensité I3 à une distance donc de 3 mètres en utilisant la relation I égale P sur 4π fois D au carré. Donc ça va nous donner P sur 4π fois 3 au carré, ce qui nous donne 3,5 fois 10 moins 4 watts par mètre carré, qui est supérieur à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré choisi par les organisateurs. Donc, la distance de sécurité n'est pas suffisante pour respecter la valeur maximale de l'intensité sonore fixée. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.